Vous écoutez France Culture.
Et tout de suite du grain à moudre, Hervé Gardette.
Merci Tara Schlegel et à demain.
À demain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Élise Leu. Relaxé. Trois militants pro-palestiniens poursuivis pour avoir appelé au boycott de produits israéliens devant un supermarché de Perpignan en mai 2010 ont été en quelque sorte blanchis par la justice hier. La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement prononcé en première instance l'été dernier. Ils étaient poursuivis pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. Il y a donc eu relax cette fois-ci, mais ce n'est pas toujours le cas. Ainsi, en novembre dernier, dans une affaire similaire, la cour d'appel de Colmar décidait au contraire de condamner d'autres militants à des peines de 1000 euros avec sursis. Illustration parfaite du flou juridique qui entoure aujourd'hui en France la question du boycott des produits made in Israël. Une question de plus en plus audible à l'échelle internationale. La polémique autour de l'actrice Scarlett Johansson, critiquée pour avoir accepté de faire la promotion d'une marque israélienne installée dans les territoires palestiniens. Cette polémique ne constituant que l'écume d'un mouvement qui inquiète de plus en plus, dit-on, le gouvernement israélien. Alors ce mouvement n'est pourtant pas nouveau. C'est en 2005 que la campagne BDS, boycott, désinvestissement et sanctions, a été lancée par des membres de la société civile palestinienne pour dénoncer notamment la construction du mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie, une façon d'obtenir, selon eux, de manière pacifique, un changement dans la politique israélienne, mais une méthode qui, pour ses opposants, est à la fois illégale et illégitime. Alors à quoi sert le boycott des produits israéliens? C'est notre sujet du jour. Ils vont être quatre ce soir pour discuter de cette question. Michel Siboni, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du Bureau national de l'Union juive française pour la paix et membre de cette campagne BDS pour la France. Vous n'êtes pas la seule, bien évidemment. Pour discuter avec vous ce soir, François Dubuisson, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de droit international à l'Université libre de Bruxelles, co-signataire d'une tribune publiée dans Libération, c'était le mois dernier, tribune intitulée « La France contre les défenseurs du droit international ». Il y a un point d'interrogation au titre de cette tribune. Vous êtes tous les deux partisans du boycott des produits israéliens. Et pour discuter avec vous, Pascal Markovitch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, signataire vous, de plusieurs tribunes condamnant le boycott. Je vais citer les deux les plus récentes. Celle du Monde, boycotteur d'Israël, vous menez un combat douteux. Là, je ne cite que les titres, bien sûr, à chaque fois. Et puis dans Libération également. C'était suite d'ailleurs à celle qu'avait co-signée François Dubuisson. Boycott d'Israël, illégal et illégitime. Ce sont justement des questions que nous aurons l'occasion d'aborder ce soir. Également avec notre quatrième invité, Rodolphe Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat, vous êtes le président de la LICRA Mulhouse, délégué exécutif national. La LICRA qui, parfois, pas systématiquement, mais se porte partie civile dans des procès contre des militants qui défendent ce boycott. C'était notamment le cas lors d'une affaire de 2009 ou 2010, où justement les militants se sont retrouvés condamné en appel, c'est l'affaire que j'évoquais tout à l'heure.
Oui, tout à fait. C'est l'affaire dont vous avez parlé, la cour d'appel de Colmar, qui a condamné 12 militants pour incitation à la haine raciale, pour provocation à la discrimination.
Alors, on va essayer d'ailleurs de comprendre dans cette émission pourquoi parfois la justice condamne, pourquoi d'autres fois elle ne condamne pas. Mais ce qui est important, c'est pour que tout le monde comprenne bien quels sont les termes du débat, que l'on explique d'abord, assez précisément, en quoi consiste cette campagne de boycott, campagne BDS, qui existe depuis déjà une dizaine d'années, mais qui n'est pas forcément encore très connue. Michel Siboni, cette campagne, elle est dirigée contre qui et peut-être d'abord contre quoi? Est-ce que c'est contre des produits qui sont fabriqués dans les implantations juives de Cisjordanie, notamment? Est-ce que c'est contre tous les produits israéliens ou est-ce que c'est contre tout ce qui est labellisé Israël, c'est-à-dire à la fois des produits manufacturés, mais aussi, par exemple, des manifestations culturelles, mais aussi des événements sportifs?
Disons que je vais dire
pourquoi cette campagne et non pas contre quoi. Cette campagne s'inscrit directement dans la nécessité du respect du droit international du point de vue des opinions civiles, des sociétés civiles. La question du boycott devrait, de mon point de vue, être posée après celle de la question des violations du droit international.
Ça va être un des objets de la discussion, hein, Michel Cibonnet, mais juste pour qu'on comprenne bien.
Alors,
c'est-à-dire,
en deux mots, ce qu'on veut, qu'est-ce pour qui être
est...
rapide.
En tout cas, qu'est-ce qui est visé ? Je voudrais juste déjà qu'on comprenne. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, vous vous dites, il ne faut surtout pas acheter le moindre produit qui serait un produit made in Israël ? Ou est-ce que c'est un peu plus ciblé que ça ?
Ce qui est visé, c'est un régime. C'est un gouvernement, c'est une pratique qui est une pratique discriminatoire d'occupation et de colonisation illégale dans des territoires occupés. Et ce qui est visé, c'est la nécessité d'obtenir que les sanctions internationales prévues pour statuer dans ces cas précis s'appliquent. Nous sommes dans une situation, la société civile, dont je fais partie avec des millions d'autres personnes, c'est une campagne internationale, bien entendu, elle n'est pas que française. Nous sommes dans la situation où nos gouvernements refusent d'intervenir et d'appliquer les outils dont ils disposent de par le droit international.
Mais pardonnez-moi, Michel Cibonnet, vous ne répondez pas vraiment à ma première question.
Alors, ce que nous visons...
Voilà. Est-ce que tout ce qui est labellisé Israël, par exemple, doit... faire, selon vous, l'objet d'un boycott, en tout cas,
d'abord,
fait partie
nous ne
de cette
visons
campagne.
En aucun cas les personnes. Nous avons une charte qui est une charte éthique, qui le dit très clairement. Nous ne sommes pas un mouvement, nous sommes un mouvement qui s'inscrit dans une action citoyenne et antiraciste. Il ne s'agit pas de boycotter des personnes, il s'agit de boycotter les institutions d'un régime. Je vais donner un exemple précis. Un artiste israélien vient à titre personnel se produire en France. Il n'est pas promu par l'ambassade d'Israël ou par le ministère de la propagande israélienne. Nous ne chercherons pas à le boycotter. Si l'ambassade d'Israël le soutient et le promeut, oui, nous le boycotterons. Parce que nous visons les institutions d'un régime et nous voulons qu'elles changent.
François Dubuisson, ensuite on va vraiment rentrer dans le débat, je vous le promets, mais François Dubuisson, vous aussi, vous êtes un partisan du boycott. Alors du boycott de quoi d'ailleurs ? J'ai vu que vous étiez un des initiateurs en Belgique d'une campagne qui s'appelle Made in Illegality, qui vise, me semble-t-il, des produits un peu plus précis, c'est-à-dire tout ce qui vient de ce que certains appellent les territoires occupés, de ce que d'autres appellent les implantations juives. Mais est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire c'est un boycott plus réduit que celui dont vient de parler Michel Cibonnet ?
Alors là, c'est une campagne qui est un petit peu différente et moi, je ne suis pas l'initiateur de la campagne. J'ai simplement rédigé un rapport en tant qu'expert en droit international sur les questions.
Qui a servi en tout cas pour
lancer cette campagne. De support à cette campagne. Et ça vise effectivement les produits qui viennent des colonies, mais ça vise là plutôt la responsabilité des États. C'est-à-dire que par rapport à ces produits qui ont en fait une origine illicite puisqu'ils sont manufacturés ou récoltés pour l'agriculture dans des colonies qui sont illégales au regard du droit international, en vertu de cette origine illicite, les États devraient prendre un certain nombre de mesures et notamment le fait de ne plus importer, autoriser l'importation de ce genre de produits. Donc là, effectivement, ce sont des mesures qui visent de manière spécifique les produits des colonies et d'ailleurs plus largement dans les campagnes BDS. Donc, qui vise, elle, l'appel plutôt envers les consommateurs, il faut quand même bien se rendre compte que très souvent, ça vise quand même principalement des produits visant les colonies. On a cité l'affaire SodaStream tout à l'heure. On se concentre là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement les éléments les plus manifestes qui caractérisent l'illégalité. Et les opposants au BDS, par exemple, ne prennent pas en considération éventuellement cet élément-là, c'est-à-dire qu'ils considèrent que même si on se concentrait sur les produits des colonies, ce serait quand même illégal, ce serait quand même discriminatoire. Et donc, généralement, ils ont un point aveugle qui consiste à ne pas essayer d'examiner le comportement même d'Israël et de considérer que c'est illégal. Généralement, ils disent « non, c'est pas vraiment illégal, les colonies, vous savez, c'est compliqué, donc on ne peut pas se fonder là-dessus pour viser des produits » et prendre certaines mesures à cet égard.
Alors on va justement leur donner la parole à ces opposants à cette campagne BDS. Je signale simplement que quand vous évoquez l'affaire SodaStream, c'est ce que je disais, Scarlett Johansson, comédienne américaine qui a fait de la publicité pour ce fabricant d'appareils de gazéification de boissons qui est implanté justement en Cisjordanie. Elle a eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Il y a l'association Oxfam, l'ONG Oxfam, dont elle elle fait partie également, qui lui a dit bah, en gros, il faut choisir, soit vous faites de la pub pour ce fabricant, soit vous restez avec nous. Elle a plutôt choisi de maintenir son contrat publicitaire. C'est vrai que c'est ce qui a donné peut-être une forme de publicité à la campagne de boycott. Est-ce que c'est suite à cette forte médiatisation que vous avez choisi, Pascal Markovitch, vous, de réagir à cette campagne de boycott qui, je le rappelle, existe depuis près de 10 ans?
Non, en fait, nous réagissons lorsqu'il y a des actions de boycott. De mémoire, le premier procès qui est passé un petit peu inaperçu, c'était un procès qui a eu lieu en 2004, lorsqu'un maire d'une ville près de Lille avait soutenu le boycott de produits israéliens dans ses cantines. Et ce maire a été poursuivi d'ailleurs par la LICRA, qui en cassation en 2004 a gagné son procès. En disant qu'on ne pouvait pas appeler au boycott de produits israéliens, c'était discriminatoire. C'est notre article 225-1 du Code pénal qui le prévoit. Ce maire a ensuite été devant la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme a statué d'une façon définitive le 16 juillet 2009 en disant que la liberté d'expression de ce maire était tout à fait parfaite. Il avait le droit d'être contre la politique d'un État. On a tout à fait le droit et c'est la liberté d'expression que nous respectons en France et dans toutes les démocraties du monde. Il faut qu'il y ait une liberté d'expression, mais il y a des restrictions à ces libertés d'expression. Et parmi ces restrictions, il y a l'appel au boycott ou le boycott lui-même, qui sont des pratiques discriminatoires. C'est ce qu'a dit la Cour européenne des droits de l'homme le 16 juillet 2009 et c'est ce que dit également la Cour de cassation en France. La dernière fois qu'il l'a dit, c'était au mois de mai 2012, le 26 mai 2012. On vous avait cité la Cour d'appel de Colmar et on pourrait reparler, si on a le temps, de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier d'hier, qui a statué, non pas sur le fond, mais en droit sur un problème de procédure. Donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas mélanger les choses.
Rodolphe Kahn, je rappelle que vous êtes de la LICRA, je le disais au tout début d'émission. La LICRA ne se porte pas systématiquement partie civile quand il y a des affaires d'appel au boycott. Qu'est-ce qui fait qu'un coup vous choisissez de le faire, un coup vous choisissez de ne pas le faire? Est-ce que c'est en fonction de la façon dont ces opérations sont menées ou du discours qui est véhiculé?
Si vous voulez, effectivement, nous n'intervenons pas systématiquement dans toutes les affaires. Nous sommes en particulier intervenus dans celle de Colmar, qui concernait 12 condamnés, parce qu'ils ont été maintenant condamnés par la Cour d'appel, même si la procédure est en cassation. Pourquoi nous sommes intervenus dans ce dossier? Parce qu'il y avait, dans ce dossier, peut-être il y a probablement aussi dans d'autres, mais on ne peut pas être forcément dans toutes les procédures. Et ça me permet de rebondir sur ce que disait Madame Siboni tout à l'heure. Il y avait, dans cette affaire, des attaques contre les personnes. Il y avait, dans cette affaire, une assimilation qui était faite au niveau des tracts qui étaient distribués entre les producteurs israéliens, en tant qu'ils sont israéliens, et les criminels. Les tracts qui étaient distribués avaient comme finalité d'assimiler les producteurs israéliens à des criminels, en faisant référence au crime qui aurait eu lieu à Gaza. Donc c'est le parallèle entre la nationalité israélienne et la notion de criminel qui nous a fait effectivement intervenir dans cette procédure colmarienne parce qu'il y a manifestement en l'espèce une incitation à la haine d'expliciter que les producteurs israéliens en tant qu'israéliens sont des criminels. Voilà ce qui expliquait notre intervention dans ce dossier.
Donc pour vous, la limite ou la frontière entre la légalité et l'illégalité, elle est lorsque les appels au boycott visent directement des personnes?
Non, la limite entre la légalité et l'illégalité n'est pas là, à mon sens. À mon sens, l'illégalité est dans l'appel au boycott, c'est un appel à la discrimination. Et c'est ce qu'a dit, comme mon maître Markovitch l'a dit tout à l'heure, c'est un appel à la discrimination. La Cour de cassation l'a dit à plusieurs reprises. La Cour européenne des droits de l'homme également. Donc on est dans la provocation à la discrimination, ce qui est interdit par la loi.
Voilà, le code pénal français qui interdit le boycott s'il y a discrimination et s'il y a entrave à l'exercice d'une activité économique. Michel Siboni, on peut se dire que donc, quand il y a appel à boycotter des produits israéliens, on est dans l'illégalité du point de vue du droit français.
C'est pas tout à fait exact de mon point de vue et je vais essayer de l'expliquer. D'abord, on a un problème avec les produits des colonies, c'est que serait très fort ce qui arriverait à distinguer les produits des colonies sur notre marché des produits israéliens fabriqués en Israël même. Puisqu'Israël refuse un étiquetage qui est demandé d'ailleurs par de très nombreuses associations et par l'Union européenne, mais qui n'est pas obtenu de ces produits pour les dissocier.
Donc vous vous dites par défaut, on est obligé d'appeler à boycotter l'ensemble des produits israéliens.
On est au moins obligé et tenu de prévenir les consommateurs que devant ces produits-là, ils ont un problème. D'accord ? Il y a même des produits étiquetés bio qui sont fabriqués dans des colonies, sur des terres volées, avec de l'eau volée et avec l'exploitation d'une main-d'œuvre palestinienne sans droit. Donc là, on a un vrai problème. Et puis, concernant le droit, je veux juste rappeler que la France est quand même dans une situation absolument unique au monde. Elle est le seul pays qui a tenté de criminaliser ou de pénaliser le boycott, alors que pas plus loin que il y a quelques années, Nicolas Sarkozy proposait de boycotter le Mexique à propos de l'affaire de la jeune femme qui était emprisonnée là-bas. La France a eu de nombreux boycotts. Moi, j'ai fait partie de la génération Outspan. Personne n'a jamais été accusé en France en vertu d'aucune loi pour l'interdiction au boycott. Et puis, on oublie de citer quand même cette fameuse circulaire à Lyon-Marie
de février 2010, voilà, qui demande au procureur d'engager des procédures pénales s'il y a un appel au boycott des produits israéliens.
Exactement. On a même eu des situations où... Alors, les tribunaux ne s'y trompent pas. C'est ce qui explique leurs hésitations. Ils n'aiment pas se sentir manipulés politiquement. Michel Alliot-Marie a même écrit à William Goldnadel du CRIF pour lui signaler qu'elle avait fait passer sa circulaire.
Bon, en même temps, elle n'est plus ministre de la Justice, Michel Alliot-Marie.
Effectivement, elle n'est plus ministre de la Justice. Mais les personnes qui ont envie et besoin d'apparenter cette situation d'un boycott qui est politique à un boycott qui serait raciste ou antisémite sont les personnes qui font un amalgame extrêmement dangereux dans notre pays.
Sur la question de l'illégalité, Pascal Markovitch.
Les choses sont très claires. La loi, c'est la loi. Dura lex, mais sed lex, comme nous disions en latin. La loi est très claire. L'appel au boycott, c'est l'article 24, alinéa 8 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, modifiée en 2004. Par l'amendement Lelouch, dit très bien que l'appel à la discrimination, c'est illégal. Raison de l'appartenance, ton appartenance à une nation, c'est illégal. Et c'est
exactement le cas. Quand certains tribunaux relaxent des militants, oui. C'est donc que la loi aussi est appliquée. C'est qu'il peut y avoir certains appels au boycott qui peuvent être malgré tout.
Alors voilà, je vais m'expliquer. Par exemple, dans l'affaire qui a été jugée hier à Montpellier, l'arrêt d'appel de Montpellier a relaxé les trois personnes pour une unique raison, c'est pour un problème de procédure. Un problème de procédure et non un problème de fond. Ça veut dire que quand on lit l'arrêt que j'ai reçu hier et que j'ai lu, l'arrêt dit bien qu'il y a eu un problème de procédure à un moment donné parce que la loi sur la presse est très précise et si on oublie par exemple une virgule dans une citation, ça peut faire annuler la procédure. Et mes confrères qui étaient les avocats des prévenus ont fait usage du droit, c'est tout à fait normal et tout à leur honneur également peut-être, pour dire qu'il y avait un problème de procédure et ils demandaient au tribunal correctionnel en première instance à Perpignan, puis ensuite devant la cour d'appel de Montpellier, de juger que puisqu'il y a un problème de procédure, le procès doit s'arrêter là et on doit relaxer automatiquement.
Oui, mais j'aurais pu citer un autre cas, par exemple, en décembre 2013, tribunal de Pontoise, oui. Qui là aussi a relaxé des militants pro-palestiniens qui faisaient partie de cette campagne BDS. Donc on voit bien quand même que la justice française a un peu de mal à statuer là-dessus, non ? Rodolphe Kahn, vous dites non ?
Je dis non. Je dis non parce qu'en l'état, ce qui est important quand on essaye d'étudier une jurisprudence, c'est de regarder les décisions des cours suprêmes. Donc de regarder la décision de la Cour de cassation, de regarder la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. À ce niveau-là, il n'y a pas de discussion possible. La Cour de cassation, mon confrère vous l'a dit tout à l'heure, est claire sur ce point. La Cour européenne des droits de l'homme également. Et ce que l'on constate, c'est quand les tribunaux étudient le fond de l'affaire, a fortiori quand c'est des cours d'appel qui vont au fond de l'affaire et qui ne sont pas arrêtées par une exception de procédure, comme on vient de vous le dire, elles condamnent. Et parce que le droit, l'article 24 de la loi de 1881 est clair, il y a lieu, selon moi, à condamnation. Je tiens à préciser également, pour rajouter sur ce que disait Mme Siboni, qui s'étonne qu'il n'y a qu'en France qu'il y a cette tentative de criminalisation, pour reprendre cette expression, mais il n'y a qu'en France qu'il existe la loi du 29 juillet 1881 sur la presse. Alors c'est vrai que c'est un grand débat d'essayer d'uniformiser le droit de la presse et le droit de la discrimination au niveau européen. On en est loin. En l'état, on a une loi en France, elle s'applique en France, elle ne s'applique évidemment pas de la même manière ailleurs.
Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut paraître surprenant. J'aimerais vous entendre là-dessus d'ailleurs, François Dubuisson, c'est que il y a eu aussi une tradition d'appel à boycotter certains produits. Et il y a eu, par exemple, au moment de l'apartheid en Afrique du Sud, certains militants de la cause tibétaine qui appellent à boycotter des produits chinois. Et puis avec l'actualité aujourd'hui en Ukraine, on peut aussi se retrouver avec des questions similaires par rapport aux produits russes. Est-ce que vous dites, François Dubuisson, il y a peut-être un deux poids, deux mesures. Et si oui, comment est-ce que vous l'expliquez ?
Oui, mais en fait, on a pensé à incriminer l'appel au boycott uniquement à partir du moment où c'était Israël qui était visé. Effectivement, lorsqu'on a visé l'Afrique du Sud, on n'a jamais pensé à incriminer les militants qui appelaient au boycott des produits sud-africains. Pourtant, sur le plan des principes, la situation est exactement la même. On ferait une distinction entre des produits en fonction d'une origine nationale sud-africaine. Et ici, on le fait en fonction d'une origine nationale israélienne.
Parce que ce sont des appels qui véhiculent autre chose qu'un simple appel à boycotter et qu'il y a une forme aussi nouvelle, en tout cas plus masquée, d'antisémitisme.
Non, parce qu'à nouveau, sur le principe, on peut ne pas le dire. C'est-à-dire que la motivation de ces appels au boycott, c'est les violations flagrantes et systématiques du droit international par Israël. Et j'aimerais entendre M. Markovitch là-dessus d'ailleurs, mais peut-être quand même pour compléter le propos, je veux dire, il est parfaitement abusif de dire que la loi est claire. Donc non, la loi ne dit pas le boycott est interdit en droit français. C'est une loi tout à fait générale qu'on retrouve exactement sous la même manière, contrairement à ce que dit M. Kahn. Si, la loi générale de l'article 24 alinéa 8, on le retrouve, c'est l'interdiction de la discrimination, l'appel à la discrimination, fondée sur une convention des Nations Unies de 1965. On retrouve le même type de législation dans pratiquement tous les États de la planète. C'est exactement. Ça, c'est simplement un appel général à l'incitation à la discrimination.
Juridiquement, vous avez tort.
Et vous avez simplement une disposition spécifique qui est l'article 225.2 qui, lui, vise l'entrave économique discriminatoire. C'est là où il y a une spécificité du droit français. Mais c'est évidemment une question d'interprétation de la loi. La loi ne dit rien sur le boycott. Et c'est là qu'il faut faire entrer en jeu la liberté d'expression. Ce qu'a fait un certain nombre de juges au fond, et donc ils ont relaxé sur le fondement de la liberté d'expression, ce qui montre qu'il faut contrebalancer l'interprétation de la loi avec la prise en considération de la liberté d'expression. Et à cet égard, l'affaire qui a été citée, l'affaire Willem de la Cour européenne des droits de l'homme, il ne visait que le cas tout à fait spécifique d'un maire qui, en fonction de sa position de maire, ne pouvait pas imposer une décision à son administration. Et ça, ce sont les circonstances spéciales que la Cour a mis en évidence. Dans toutes les autres affaires, lorsqu'il s'agit d'associations militantes, la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'ils ont une liberté extrêmement renforcée et que la marge d'appréciation des États est extrêmement restreinte.
Sur cette question de la légalité, simplement une réaction de Rodolphe Kahn. Ensuite, je voudrais qu'on passe à la question de la légitimité, qui est importante également.
Réaction. Sur ce qu'on vient de vous dire à l'instant sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme a dit clairement, je l'ai sous les yeux l'arrêt, une démarche discriminatoire est de ce fait condamnable. Point. Terminé. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Démarche discriminatoire, ça a été considéré.
Oui, mais il y a quand même quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Il y a eu une directive européenne, par exemple, qui a été votée en juillet dernier et qui dit ceci. Alors, il ne s'agit pas d'appeler à boycotter les produits israéliens, bien entendu, mais elle dit, voilà, tous les accords entre l'État d'Israël et l'Union européenne doivent indiquer sans ambiguïté et explicitement qu'ils ne s'appliquent pas aux territoires occupés par Israël en 1967. Alors là, est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de contradiction entre la politique européenne et la législation européenne, ou comment est-ce qu'il faut la comprendre, Rodolphe Kahn ?
Non, je voulais simplement revenir, parce que j'ai pas pu complètement finir tout à l'heure sur ce qui était dit concernant la distinction avec l'Afrique du Sud. On nous dit, dans l'Afrique du Sud, il y a eu des boycotts, et personne n'a jamais rien dit. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'à l'époque, à l'Afrique du Sud, il y avait une résolution de l'ONU qui appelait au boycott, donc une décision de l'organe de l'ONU, des Nations Unies, qui appelait au boycott. C'est pas du tout la même chose. En l'occurrence, on n'a rien en l'espèce.
Il y a des décisions de l'ONU qui considèrent, par exemple, que la construction du mur entre la Cisjordanie et Israël est illégale.
Ce n'est pas un appel au boycott.
Non. Alors, si je peux peut-être m'exprimer dessus. Oui. Sur ce que vous avez dit à propos notamment de cette directive, de ce vœu qui a été voté par le Parlement européen. En fait, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a des territoires qui sont occupés. Mais discussion dessus, puisque si on se réfère à la résolution 242 de l'ONU, on ne parle pas de territoires occupés, on parle de territoires qui, si on veut rester neutre, sont disputés. Parce que pour être occupé, il faut qu'il y ait eu précédemment un État. Or, il n'y avait pas d'État de Palestine avant 1967, avant qu'il y ait la guerre des Six Jours.
Donc c'est votre manière de remettre en cause non seulement la légalité, mais la légitimité de ces appels au boycott.
Voilà. Mais alors, c'est un petit peu plus complexe que ça aussi. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous indiquiez dans votre question, il y a peut-être quelque chose derrière également ces appels au boycott, autre chose que de la simple volonté de boycotter purement et simplement. Oui, et alors, si on veut se référer à l'apartheid et à la situation en Afrique du Sud, c'est totalement hors de propos. Pourquoi ? Comme vous l'a dit mon confrère Rodolphe Kahn, à l'époque, les gouvernements avaient tous, je dirais dans la planète, pratiquement décidé qu'il fallait boycotter tout ce qui venait de l'Afrique du Sud. Et c'est en référence à cela que la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué qu'une prérogative de la puissance publique c'est exactement de dire, à partir de maintenant, nous décidons que plus rien ne rentrera dans notre pays en provenance de tel pays. Ça a été le cas pour l'Afrique du Sud, et c'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une prérogative de la puissance publique, d'un gouvernement, de dire nous appelons aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous décidons qu'il y aura le boycott. Donc si le gouvernement israélien décide...
Est-ce que je dois comprendre, Pascal Markovitch, que si le gouvernement français, par exemple, disait bah, nous décidons de boycotter les produits israéliens, vous jugeriez ça beaucoup plus légitime que quand c'est le cas d'association.
Ça serait légal. C'est le cas notamment des produits. Ça pourrait être le cas des produits chinois, par exemple. Ça pourrait être le cas des produits iraniens. Je vous rappelle qu'il y a des résolutions et des décisions, notamment par le gouvernement français, qui décident que tel ou tel produit ou telle marchandise iranienne doit être boycotté. Et ça s'impose à tous. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Et quand tout à l'heure, Mme Stibouni disait, sous le gouvernement précédent, M. Sarkozy a appelé au boycott du Mexique. On n'a rien fait contre cela. Eh bien, il a le droit d'appeler au boycott du Mexique. Et si des associations franco-mexicaines ne sont pas d'accord avec cela, ils avaient et ils ont qu'à faire des procédures. Pourquoi pas ? La loi est la même pour tout le monde. Ce n'est pas une loi. Cet article 24, alinéa 8 et cet article 225.1 et tiré 2 du Code pénal n'ont pas été votés pour Israël. Comme le disait tout à l'heure M. de Buisson, ce sont des lois générales. Elles s'appliquent à tout le monde.
Ils ne sont appliquées que pour Michel Israël Sibony. Et sur demande de forte du CRIF notamment.
Je fais partie du CRIF, donc combat. Je sais très bien que ce n'est pas de la part du CRIF.
Écoutez, j'ai sous les yeux un article de vous, un interview de vous d'un journal que je peux citer, qui est un journal américain, et j'ai pris la peine de le traduire. JTA, Global Jewish News Source. Cependant, Markovitch reconnaît que la loi est une épée à double tranchant. La loi Lelouch rejette aussi les appels, pourrait rejeter aussi les appels à un boycott contre l'Iran pour son programme nucléaire, ce qui requiert de la communauté juive de faire attention à comment elle s'exprime sur cette question. Pour nous, le BDS est un grand problème, donc nous devons nous battre, dit-il. Mais dans la société française, ce n'est pas juste une assez importante question pour provoquer une réaction populaire forte dans un sens ou dans l'autre. Je viens de citer un article que je pourrais vous remettre tout à l'heure. Je veux juste revenir un tout petit peu sur les fondements du BDS. Parce que il me semble que toute la question est une question politique. Et la bataille est politique. C'est exactement ce qui gêne les juristes français et les tribunaux français. Nous sommes dans une situation où chaque fois que nous devons parler et dénoncer ce qui se passe en Israël au niveau du régime, qui n'est pas un régime qui n'est problématique que dans les territoires occupés, appellation que vous refusez, qui est aussi un régime qui est très problématique pour ses propres citoyens d'origine arabe, palestinien. On peut parler, par exemple, de l'épuration ethnique en cours dans le Negev. Des milliers et des milliers de Bédouins qui sont expropriés de force, dont on veut détruire les villages. Le plan Prawer a été interrompu par la pression internationale, mais il s'applique. Ne nous faisons pas d'illusions. On peut citer les 130 prisonniers en grève de la faim qui sont attachés, qui sont menottés, qu'on prive de sel alors que c'est nécessaire pour leur santé depuis plus de 3 semaines, parce qu'Israël ne respecte pas ses propres accords passés avec les prisonniers il y a 2 ans lors de la grande grève des prisonniers sur la détention administrative qui permet d'emprisonner des gens pendant des années aujourd'hui sans aucun jugement et sans accès de la défense à leur dossier.
Donc il ne s'agit pas pour vous simplement d'un problème d'occupation mais de discrimination.
Nous avons un régime qui est... Le tribunal Russell a examiné dans sa session du Cape Town la possibilité à examiner comment Israël était en violation flagrante de la loi contre l'apartheid, pas l'apartheid sud-africaine, la loi sortie à l'ONU après l'apartheid, qui définit le crime d'apartheid. Et ce tribunal, notamment dans ses annexes, j'invite tout le monde à aller les chercher, il liste les lois israéliennes discriminatoires. Il y en a une petite trentaine qui discriminent tous les jours les citoyens palestiniens. Ce que je veux dire, et c'est mon dernier point, c'est que la campagne BDS avait 2 buts. Le premier but, c'était de faire pression sur nos gouvernements. Et les recommandations de l'Union européenne, on ne peut pas en douter, sont le fruit de ces pressions internationales. Et depuis, de nombreux gouvernements, notamment l'Allemagne, la Hollande, le Luxembourg, etc., ont appliqué les recommandations. Pourquoi la France ne les applique pas ? Voilà une vraie question. Et dernier point, il s'agissait de faire pression sur Israël. Bibi Netanyahou, Benjamin Netanyahou, devant son discours sur les PAC, devant les PAC aux États-Unis, a cité 38 fois le mot BDS. Il a convoqué un cabinet d'urgence. On a fait passer la question du boycott du ministère des Affaires étrangères au ministère de la Propagande avec 21 millions d'euros. Et ce qu'on appelle les Israel Fellows, disséminés dans le monde pour lutter contre cette campagne.
Donc preuve que c'est une campagne qui est prise désormais au sérieux. Rodolphe Kahn.
Oui. Vous parliez de la situation prétendument raciste de l'État d'Israël. Il est vrai qu'il y a des problèmes dans l'État d'Israël. Et l'ICRA ne s'en cache pas du tout. Et nous avons, il y a quelques jours, publié un communiqué sur le racisme de l'État d'Israël, de la politique israélienne. Nous condamnons le racisme aussi en Israël quand il y a lieu, comme nous le condamnons partout ailleurs. Nous avons une attitude de lutte contre les discriminations, contre le racisme, qui est général, donc, quelle que soit la situation, quel que soit le pays, en France évidemment, mais également à l'international, quel que soit le pays. Par contre, j'aimerais quand même poser la question à mes contradicteurs aujourd'hui. On appelle au boycott de produits israéliens, d'accord, mais est-ce qu'on appelle au boycott des produits chinois? Est-ce qu'on appelle au boycott des produits russes? De cela, on n'a pas l'ombre d'une position de la part de nos contradicteurs. On ne nous dit jamais rien, il n'y a jamais rien sur ce terrain. On a l'impression qu'il n'y a que les boycotts des produits israéliens qui doivent avoir lieu et pas les prétendus PayPal et les autres violations des droits de l'homme.
Alors qu'est-ce que vous répondez à ça, François Dubuisson?
Peut-être avant de répondre sur ce point, je voudrais quand même revenir sur le point qui a été indiqué sur l'Afrique du Sud en disant que là, le fondement du boycott, même le boycott citoyen, c'est des résolutions du Conseil de sécurité, c'est parfaitement faux, puisque le mouvement de boycott a été lancé en 1959. Ce n'est que dans les années 80 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris certaines mesures de sanctions qui étaient extrêmement limitées, qui ne visaient qu'un embargo sur les armes, justement dû à la réticence des gouvernements. Donc c'était bien la société civile qui a porté l'appel au boycott, qu'on n'a jamais considéré comme étant illégal en soi, et c'est simplement ça qui a fait bouger les lignes, et de manière relativement limitée dans le chef des gouvernements, donc il n'y avait pas du tout un fondement dans une quelconque résolution des Nations Unies.
Alors pourquoi en particulier Israël?
Alors pourquoi en particulier Israël? Il y a à cela plusieurs réponses. Premièrement, c'est que ça ne fait que répondre à un appel de la société civile palestinienne. Si demain, les Ukrainiens...
Appel de la société civile palestinienne. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, n'est pas extrêmement clair sur la nécessité ou pas de boycotter les produits israéliens. Mais on peut aussi y voir un effet contre-productif, notamment pour les travailleurs palestiniens.
C'est pas la société civile. C'est un appel de la société civile, puisqu'il y a quand même un certain, maintenant, fossé entre la société civile et la politique de l'autorité palestinienne. Donc c'est tout à fait le rôle des associations de faire un appel en ce sens. Donc là, il y a un appel auquel il s'agit de répondre ou pas. Si demain, il y a un appel des Ukrainiens ou des Tibétains, eh bien, les associations concernées par le domaine pourront y répondre ou non, en se demandant si c'est un élément efficace et pertinent de lutte. L'appel BDS, il vient aussi par rapport à un manque des gouvernements. Si on prend la Russie, eh bien, dès le moment où la Crimée a été annexée, tout de suite, l'Union européenne a adopté des sanctions, en ce compris également par les États-Unis. Ce qui est déploré par la société civile, c'est que s'agissant d'Israël, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus on continue tout le temps à adopter des accords économiques qui lui sont extrêmement favorables et qui lui donnent le statut le plus privilégié auprès de l'Union européenne. Donc c'est par rapport à un certain manque qui est ressenti dans le chef des gouvernements. Et donc c'est là simplement la société civile qui vient pallier ce manque en adoptant ses propres mesures pour créer un débat, ce qui est à mon avis parfaitement légitime en termes de liberté d'expression.
Pascal Markovitch, dans une des tribunes que vous avez co-signées, vous écrivez notamment ceci: ces opérations illégales, en parlant donc des opérations de boycott, ne sont pas sans rappeler le boycott des magasins juifs en Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu une facilité que de forcément ramener ces opérations politiques à autre chose justement que leur dimension purement politique?
Les Juifs, ils occupaient qui en Allemagne?
Ce n'est malheureusement pas une facilité. Et je vais vous donner un exemple. Dans l'affaire d'Alençon, qui a donné lieu à un jugement au mois de septembre du tribunal correctionnel d'Alençon, nous voyons une vidéo qui a été prise par ces boycotteurs où ils enlèvent tous les produits des rayons, tous les avocats qui sont faits en Israël. Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle exactement cela. On veut priver le consommateur d'avoir le choix de prendre un produit de telle marque ou non, de telle qualité ou non, en disant cela, vous n'y toucherez pas. Pourquoi? Dans une autre vidéo, à un moment donné, il y a dans un supermarché, il y a des fleurs qui sont présentées à la vente. Et au cours d'une action de boycott, un des boycotteurs dit, il n'y a rien marqué, ça doit être israélien, on l'enlève. Voilà. Quelle est la réaction ? Quand on regarde les émissions télévisées ou ce qui s'est passé avant la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, on voit exactement la même chose. On dessinait une étoile de David sur les magasins tenus par des juifs en disant « là, il ne faut pas y aller ». Et bien, c'est exactement la même chose. Et finalement, ce que veut cette campagne BDS, ce n'est pas simplement ce que disait Mme Siboni. C'est une exclusion, une mise en quarantaine de l'État d'Israël, je dirais même plus une délégitimation de l'État d'Israël. Et c'est d'ailleurs ce que reprend l'un des théoriciens de cette campagne BDS, qui s'appelle M. Barghouti, qui vit en Israël, qui est professeur à l'Université de Tel Aviv également, et qui, donc, liberté d'expression quand même d'un État démocratique qu'on veut aujourd'hui vous faire croire qu'il ne s'agit pas de cela. J'ajoute qu'il y a quand même trois partis arabes israéliens à la Knesset, qu'un des vice-ministres qui secondait M. Olmert était druze, que le juge qui a condamné Moshe Katsav, l'ancien président de l'État d'Israël, pour des faits délictueux de viol, est quand même un juge arabe, et personne n'a remis en cause sa décision. Donc quand on nous dit qu'il s'agit d'un pays loin d'être démocratique et qui commet des exactions, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Mais maintenant, pour venir avec ce que vous disiez...
Et brièvement, s'il vous plaît, parce qu'on est déjà presque au terme de l'émission.
Voilà. Je me souviens d'une chose. Il y a un site internet qui fait la promotion de la campagne BDS en France. Et il y a eu, en 2000, un manifeste qui a été publié, qui s'appelle le Manifeste des 2000, où 2000 personnalités ont signé cet appel au boycott. Un des commentateurs a mis une observation dessus en disant « Vite, ramenez les pyjamas rayés. Après les produits, on va boycotter les juifs. » Voilà quel genre d'argument qui peut être développé, voilà quel genre de sentiment qui peut être développé qui amène à l'antisémitisme. Je ne suis pas en train de dire que tous les boycotteurs sont des antisémites, loin de là. Mais il peut y avoir en réaction chez certains, lorsqu'ils voient ces actions de boycott, des actions antisémites. Et on en revient effectivement à ce qui se passait avant. Bon, et cela est d'autant plus condamnable que, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement le boycott pour moi est illégal.
Bon, Michel Siboni, vous êtes bien consciente que ce genre de campagne peut drainer effectivement de telles réactions et de tels comportements antisémites,
la
vous n'en êtes pas à l'abri.
La campagne BDS France est une campagne extrêmement vigilante là-dessus. Nous n'avons jamais hésité, notre charte est, vous savez, entrez sur le site bdsfrance.org, lisez la charte, et lisez les textes qui sont sur ce site et vous allez voir tout de suite à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à des militants, et ça vous répond, monsieur, qui ont été des militants de toutes les causes. Qui sont, moi, le 1er mai est un jour qui me fait toujours rire parce que dans la manif du 1er mai, dans tous les cortèges, je connais tout le monde. Que ce soit sur l'Afghanistan, que ce soit sur tous les conflits, ce sont les mêmes militants qui se battent sur tous les conflits en général. Donc nous sommes des militants souvent internationalistes, souvent qui sont soucieux du droit international, et nous avons la sensation que le droit international doit s'appliquer aussi à Israël. Ni exclusivement, ni de manière extraordinaire, juste, simplement, le droit international. Et pour vous avez cité Omar Barghouti, moi je veux juste citer une phrase d'Omar Barghouti qui a été publiée
alors
dans le New York Times.
Omar Barghouti.
Omar Barghouti est un des coordonnateurs de la campagne BDS palestinienne. La justice et l'égalité des droits pour tous détruiraient-elles réellement Israël ? L'égalité a-t-elle détruit le sud des États-Unis ou l'Afrique du Sud ? Certes, elle a mis fin à l'ordre racial discriminatoire qui a prévalu dans ces deux endroits, mais elle n'a détruit ni le peuple ni le pays. Et de la même manière, c'est l'ordre injuste d'Israël qui est menacé par le BDS.
Il y a une toute dernière réaction. Rodolphe Kahn et François Desbuissons, finalement, est-ce que soutenir aussi ce genre de campagne, ça n'est pas soutenir une voie pacifique qui vaut quand même toujours mieux que des actions violentes qui peuvent être et qui ont en tout cas été celles par le passé d'un certain nombre de militants palestiniens. Est-ce que ça n'est pas mieux, y compris d'ailleurs peut-être pour les Israéliens ?
Ce n'est pas une voie pacifique en tant que telle. N'oublions pas que par ce biais, on importe le contentieux en France. Le contentieux israélo-palestinien, on l'importe en France. Et comme on en est dans les citations, j'en citerai une dernière. C'est Martin Luther King. Martin Luther King qui a dit « Quand les gens critiquent le sionisme, ne te trompe pas, ils pensent les juifs. »
Allez, il faut bien terminer par quelqu'un. Ce sera vous, en l'occurrence, François Desbuissons.
Oui, je ne vais pas commenter ces rapprochements qui, à mon avis, sont totalement hors de propos. Comparer ça avec le boycott des commerçants juifs par les nazis, ça me paraît totalement hors de propos. Je crois que ce qui est important, c'est de se demander quoi d'autre aussi. C'est-à-dire que généralement, ceux qui sont des opposants au BDS n'ont absolument aucune alternative à proposer à part un processus de paix qui continuerait sans fin et qui aboutit sur le terrain à une colonisation et qui se renforce de jour en jour. On a vu avec les dernières négociations de paix, hein, il n'y a jamais eu autant d'appels d'offres pour la construction de nouveaux logements et de nouvelles colonies. Donc, il faut forcément faire quelque chose et ça ne peut être que par des appels à certaines sanctions, parce qu'il faut que la poursuite de l'occupation ait un certain prix pour le gouvernement israélien.
Ouais, ouais, j'espère que la discussion est extrêmement courtoise, et je vous remercie vraiment tous les quatre de vous être laissés parler au cours de ces 40 minutes de débat. J'espère que cette discussion permettra à chacune et à chacun de se faire son propre avis sur cette question. Vous pouvez évidemment poursuivre la discussion sur Internet, sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, une émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours et télécharger pendant un an. Demain, ce sera notre dernier rendez-vous avec notre club des observateurs des élections européennes. Pourquoi voter dimanche ? C'est la question que nous poserons. Tout de suite, c'est le rendez-vous avec Laurent Goumard.